Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Nouvelles du Monde pour ce mardi 14 octobre. On va parler de la révolte populaire à Madagascar avec le président qui s'accroche encore au pouvoir visiblement. On va parler de la libération des otages israéliens et des otages palestiniens qui a commencé entre Gaza et l'armée israélienne. On va aussi parler de ce qui se passe du côté de la 69 avec des suites judiciaires suite à des commandos anti-opposants qui ont lieu dans les années précédentes. On va parler de l'implantation possible d'un fast-food à La Roque, en tout cas d'une pétition qui se mobilise contre. Et enfin, on va commencer, avant tout ça, à parler de ce qui s'est passé à Montpellier ce week-end avec un article paru dans les colonnes du média Le Point. On lit en effet sur le site lepoint.net, le point avec un G à la fin, qu'une manifestation a eu lieu pour parler de la psychiatrie. C'était tout en France d'ailleurs qui ont eu lieu ce samedi 11 octobre des rassemblements. C'est une initiative nationale sous le titre de la Mad Pride, la fierté folle, hein, en référence, en clin d'œil au Pride, aux marches des fiertés. À Montpellier, une petite soixantaine de personnes concernées par l'expérience de la psychiatrie s'est réunie donc pour ce premier rendez-vous, une manière pour elles et eux de porter dans l'espace public des vécus et des revendications trop souvent invisibilisées. C'est pourquoi j'ai choisi de transmettre un petit peu quelques-uns de leurs témoignages de cet article avec vous aujourd'hui. Nous nous flattons d'être la seule manifestation publique de concernés durant cette année de la santé mentale, grande cause nationale, hein, c'est la cause du gouvernement. Une année qui n'a fait que reconduire notre invisibilisation. Quelques mots donc de prise de parole, mais nous ne nous laissons pas silencier et nous affirmons rien sur nous et sans nous. C'était même les premières lignes du manifeste donc annonçant cette première Mad Pride autonome qui a eu lieu ce 11 octobre, je vous le disais, dans plusieurs villes de France. Le but, c'est de porter la voix des personnes concernées par la psychiatrie et pas seulement donc de ces travailleurs ou travailleuses. À Montpellier, donc, une soixantaine de personnes présentes au quorum pour cette petite manifestation samedi. Parmi elles, par exemple, Bulle. Elle dénonce le fait de ne pas avoir été entendue lors de sa prise en charge médicale, c'était il y a 4 ans. Elle explique « Je suis arrivée à l'hôpital, on m'a donné un Valium et on m'a dit de rentrer chez moi ». Puis plus tard, alors qu'elle vivait une crise psychotique, elle raconte avoir été enfermée dans une chambre vide, attachée sur un lit et mise à l'isolement. J'avais vu sur un beau jardin, mais je ne pouvais pas y aller. Je ne vois pas en quoi c'est thérapeutique, c'est de la torture. Pour elle, donc, l'enjeu, c'est avant tout l'accès aux droits et à l'information pour les personnes concernées par la psychiatrie. Une psychiatre alliée, dit-elle, m'a appris que les services documentent le problème des violences qu'ils infligent dans les dossiers médicaux sans le voir. Et elle l'a motivée donc à en faire une copie pour pouvoir faire respecter ses droits. Toujours dans ce volet de l'accès aux droits, une des revendications qui a été mise en avant au cours de cette journée, un autre manifestant qui s'appelle Kiern parle lui d'aberration quand il mentionne l'administration. Il explique qu'il y a un dossier à renouveler tous les 3 ans pour une allocation adulte handicapé, l'AAH, et qu'il doit tout le temps se justifier d'être en situation de handicap puisque les problèmes de santé mentaux sont souvent rarement visibles de manière en tout cas comme un handicap corporel qui serait lui plus facile à évaluer. Il évoque aussi le manque de rendez-vous dans les centres médico-psychologiques, les CMP, dont les délais courts sur parfois 6 mois. Or, on a besoin d'espaces ressources autres que l'hôpital psychiatrique où on nous enferme et on nous drogue. Et en effet, c'est cette question des médicaments, des drogues, qui revient aussi beaucoup, notamment lors des prises de parole après la marche. Une jeune femme, par exemple, expliquait avoir pris jusqu'à 11 médicaments différents dans la même journée. « J'étais transformée en zombie », dit-elle, « mes proches ne me reconnaissaient plus ». Et un autre slogan a été maintes fois répété pendant cette manifestation, il disait « Si c'est contraint, ce n'est pas du soin ». Ce slogan prend tout son sens face à la surmédicalisation des problèmes de santé mentale. Aurore, d'ailleurs, qui était présente aussi, qui est étudiante, elle, pour devenir éducatrice, explique avoir fait les frais du manque de consentement pour cette fameuse prise de médicaments. À aucun moment, dit-elle, les médecins ne m'ont parlé des effets secondaires des antipsychotiques. J'ai pris du poids, je ne ressentais plus de plaisir et je ne comprenais pas pourquoi. J'estime avoir été mise en danger. Et elle conclut, pour moi, la libre adhésion aux médicaments doit être une ligne de conduite de la psychiatrie. Pour Aurore, qui était présente aussi à cette manifestation, la psychiatrie est même pour elle un garant de l'ordre social. Selon cette étudiante, elle sert à régler de manière individuelle des problèmes sociaux. S'il y a autant de gens qui veulent se suicider, c'est peut-être à cause de leurs conditions de travail ou des violences sexuelles qu'ils ont pu vivre. C'est cette société qui produit bon nombre des violences qui emmènent les gens vers la dépression. Et dans certains cas, donner des pilules à des enfants qui souffrent de déficit de l'attention ou d'hyperactivité va permettre d'économiser notamment des salaires d'AESH à l'école. Voilà quelques-unes des pistes de réflexion et des alarmes et des alertes qui ont été lancées au cours de cette première journée de la Mad Pride. Celle-là, c'était à Montpellier, mais il y en a eu, je vous l'ai dit, dans plusieurs villes de France. L'article est à retrouver dans les colonnes du média Le Point, avec un G à la fin. Et pour ce qui est de cette journée, elle s'est terminée par une scène ouverte au quartier généreux, avec pour tous et toutes l'envie partagée de refaire une Mad Pride l'an prochain. On a vraiment besoin d'être visibilisés. Conclut cet article avec les mots de Bulle. Au Proche-Orient, conformément à l'accord de paix qui a été signé par Israël et le Hamas, la libération des derniers otages vivants détenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre a eu lieu hier lundi. C'est donc officiel, il n'y a plus d'otages dans la bande de Gaza. Pour rappel, lors de l'attaque du 7 octobre 2023, environ 251 personnes ont été prises en otage par le Hamas, dont des civils israéliens, népalais, philippins, thaïlandais, argentins, français et américains. 148 de ces otages avaient été libérés dans les semaines qui avaient suivi l'attaque. D'autres ont perdu la vie dans les bombardements ou le conflit. Et donc hier, le 13 octobre, les 20 derniers otages qui étaient encore en vie ont été remis aux autorités israéliennes, ce qui marque la fin de plus de 2 ans de captivité donc pour ces personnes. En échange, Israël a accepté de libérer près de 2000 otages palestiniens, soit 100 fois plus. J'utilise le mot otage et non pas prisonnier, on va en reparler un petit peu après. Il y aurait environ en tout cas encore 10 000 Palestiniens détenus par Israël, dont 4 000 en détention administrative, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont détenues sans motif, ni inculpation, ni être passées devant un tribunal. Plus de 1 700 Gazaouis qui ont été arrêtés au cours de ces 2 dernières années donc ont été relâchés hier lundi. Le plus jeune d'entre eux n'avait que 16 ans, le plus âgé 76 ans. Maintenant, on va parler un petit peu du traitement médiatique de cette séquence, qui est historique. Depuis 2 jours, dans les médias français, on célèbre à l'unisson donc, la libération de ces 20 prisonniers israéliens, comme si leur vie comptait donc plus que les centaines de milliers de victimes à Gaza ou les 1700 autres personnes qui ont été libérées. Quelques titres, le Sud-Ouest, otages à Gaza, Matan, Gali, Elkana, voici le portrait des 20 Israéliens libérés hier. Libé aussi, découvrez leurs portraits. Visiblement, les portraits de toutes ces personnes ont été communiqués à toute la presse. Le Monde publie un article intitulé « Libération des otages israéliens, les images des scènes de liesse à Tel Aviv ». Dans le Figaro, désorientés, souriants, soulagés, les premières images des otages israéliens du Hamas libérés ce lundi. Et donc plus grave, pour qualifier les Israéliens, tous les médias parlent bien d'otages et non de prisonniers de guerre. Pourtant, certains d'entre eux, si on lit justement leur biographie, c'était des militaires dans des tanks quand ils se sont fait arrêter. Donc c'était normalement des médias honnêtes auraient pu se contenter de dire que des militaires ont été libérés dans leur cas. Par exemple, c'est le cas quand des soldats russes ou ukrainiens sont échangés. Et puis, surtout en parallèle de ça, il y a les portraits et l'histoire des centaines de Palestiniens libérés qui sont, eux, passés sous silence, complètement ignorés. Ils n'ont pas de parcours, pas de rêve, pas de vie. Ce sont juste des Palestiniens, voire potentiellement donc des membres du Hamas, voire, vous l'aurez compris, des terroristes. Leurs vies n'ont visiblement aucune valeur, une certaine forme de suprémacisme, de racisme en tout cas. Et d'ailleurs, Israël a forcé les Palestiniens qui étaient libérés à ne pas parler à la presse, ni à ne faire aucune démonstration publique. Ils ont même interdit aux familles de fêter et de sortir les drapeaux palestiniens, ce qu'ils font quand même malgré tout. Et malgré cela, donc, des témoignages sont diffusés, plutôt sur les réseaux sociaux et repris par des médias à l'étranger. Les Palestiniens libérés déclarent tous avoir été battus et humiliés. Ils décrivent les prisons israéliennes dans lesquelles ils étaient détenus comme des abattoirs. Un autre détenu libéré, qui s'appelle Yacine Abou Amra, explique que la nourriture, l'oppression et les coups, tout était horrible. Il n'y avait ni nourriture, ni boisson. Je n'avais rien mangé depuis 4 jours, donc quand il a été libéré. Ils m'ont donné 2 bonbons ici et je les ai mangés, racontait-il. Alors qu'en parallèle, on pouvait voir que dans les quelques personnes libérées par le Hamas à Israël, les conditions de santé avaient l'air relativement maintenues. On peut parler aussi de ce journaliste palestinien, prisonnier, Shadi Abou Seid, qui a donné un récit poignant de la vie dans une prison israélienne après sa libération. Il dit « J'ai eu faim pendant 2 ans. Je jure devant Dieu qu'ils ne nous ont pas nourris. Ils nous ont laissés nus. Ils nous ont battus alors que nous étions nus. Et ce jour et nuit, nous avons été torturés. » Selon une organisation israélienne de défense des droits humains, qui s'appelle B'Tselem, les Palestiniens sont victimes d'abus et de traitements inhumains dans les prisons israéliennes par principe. Jusqu'à le dernier jour en prison israélienne, certains d'entre eux ont été blessés, frappés et maltraités. Ils expliquent avoir subi toutes sortes de tortures psychologiques et physiques. Et donc toujours ce journaliste, Shadi Abou Seid, nous dit « On n'arrivait même pas à dormir, ils nous ont menacés avec nos enfants. Ils m'ont dit qu'ils avaient tué mes enfants. Ils nous ont dit que Gaza était détruite. Je suis arrivé ici et j'ai constaté que tout avait disparu. On aurait dit la fin du monde. Tout est différent. » Donc il parle effectivement de sa libération et donc de découvrir les ruines de Gaza. Mais seule bonne nouvelle, quand même, en rentrant chez lui, il a retrouvé finalement sa femme, ses enfants et ses parents qui étaient tous vivants et fous de joie. À la liste des personnes qui ont été libérées aussi, il faut ajouter les 250 prisonniers qui ont purgé une peine depuis de nombreuses années pour des faits violents, par exemple des meurtres ou des tentatives de meurtre. Et bien dans ces cas-là, Israël a fait des choix pour le moins troublants sur qui ils allaient libérer ou pas. Ainsi, ils ont bien libéré des meurtriers du Hamas, mais d'autres personnes n'ont pas été libérées. Par exemple, des leaders palestiniens, qui étaient pourtant sur la liste réclamée qui a été envoyée à Israël, eux vont rester derrière les barreaux. On peut citer Ahmed Saadat, c'est l'ancien secrétaire général du Front Populaire de Libération de la Palestine, le FPLP, c'est un mouvement de gauche anticolonialiste, lui va rester enfermé. Pareil pour Marwan Barghouti, un ancien militant du Fatah, une personnalité donc de premier plan pour la politique palestinienne, qui est emprisonné depuis 23 ans. On le surnomme le Mandela palestinien. Il est une figure centrale de la résistance, très populaire, interlocuteur reconnu et figure plutôt respectée. Donc un des hommes qui aurait pu être parmi un des seuls à pouvoir assurer peut-être un rôle politique de premier plan pour le cas où une reconnaissance réelle d'un État palestinien aurait lieu. Visiblement donc, pour Benjamin Netanyahou, il faut absolument priver les Palestiniens de toute figure de référence qui serait capable de négocier ou d'être audible à l'international. Mieux vaut libérer des tueurs que des personnalités politiques arrêtées pour leurs idées et ce qu'elles représentent. Les prochaines journées et heures sont donc sous les augures de négociations difficiles à venir. La paix repose pour l'instant principalement sur un cessez-le-feu. Quel avenir alors pour les territoires palestiniens ? Il faut déjà stabiliser cette zone. Une force internationale devrait être déployée pour superviser la sécurité. C'est en tout cas ce qui est prévu dans le plan de paix déployé par Trump. Nous allons engager des discussions avec les États-Unis d'Amérique et Israël pour nous assurer qu'il y ait un suivi international et que l'aide humanitaire puisse accéder dans les meilleurs délais. Ça, c'était les mots de Emmanuel Macron. Un point crucial, donc, pour finir, c'est l'aide humanitaire. Depuis ce vendredi 10 octobre, elle peut à nouveau entrer sur la bande de Gaza, prise d'assaut par des milliers de personnes affamées. Il faut ainsi nourrir la population, puis reconstruire des villes qui sont devenues littéralement des tas de ruines. 80% des bâtiments sont endommagés ou détruits dans l'enclave, selon l'ONU. Les Palestiniens campent donc sur les ruines de leurs maisons. La tâche est difficile et devra être gérée par un comité palestinien apolitique. Mais pour que cela soit possible, le plan prévoit aussi de désarmer le Hamas et le mouvement islamiste refuse, ce qui présage déjà de futures négociations difficiles.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
On part à Madagascar, où le président Andry Rajoelina s'accroche au pouvoir avec le soutien d'Emmanuel Macron. Alors que celui-ci a quitté son pays avec l'aide de la France, le président malgache est apparu pour la première fois à la télévision depuis que l'armée s'est mutinée et a refusé de démissionner. Donc, en dépit des apparences, le président malgache, conspué depuis ce 25 septembre par la jeunesse qui réclame son départ, ne serait pas en fuite. Il était invisible malgré tout depuis le jeudi dernier, et donc finalement apparu hier soir au cours d'une allocation de 20 minutes qui a été diffusée avec 3h30 de retard. Il était 22h35 à Madagascar et ça s'est passé sur les réseaux sociaux. depuis ce qu'il appelait un lieu sûr, mais un lieu non identifié. Le but de l'allocution était donc de démentir les rumeurs de sa cavale qui alimente depuis dimanche toutes les spéculations, avec là aussi mise en avant le coup de main de la France pour exfiltrer donc ce président mal aimé. Des vidéos amateurs ont par exemple montré l'arrivée d'un hélicoptère à Sainte-Marie, une île située sur la côte est de Madagascar, suivie du décollage d'un avion militaire français vers l'île de la Réunion. Sur l'écran de cette vidéo, donc aucun décorum habituel de son palais de Iavoloa, sanglé dans un costume gris et filmé en plan serré, avec pour seul décor un papier peint à motifs géométriques et le drapeau de Madagascar, le président n'a pas annoncé sa démission, comme son silence de plusieurs jours et son départ de la grande île laissaient espérer les manifestants. Il explique avoir pris des mesures pour protéger sa vie et éviter un bain de sang entre malgaches. « Je suis actuellement en mission à l'étranger, dit-il. Un complot visant à attenter à ma vie a été fomenté par certains groupes et préparé avant le 25 septembre, qui est donc la date du début des manifestations à Antananarivo. » Le président a déclaré donc ce dimanche qu'une tentative de prise du pouvoir illégal et par la force était en cours. C'était le lendemain du ralliement d'un contingent de soldats aux milliers de manifestants anti-gouvernementaux dans la capitale. Ils ont donc refusé de réprimer la foule et se sont retournés contre le président. En déclarant ceci, les officiers de cette unité, sur une vidéo, là aussi, ils ont déclaré « Désormais, tous les ordres de l'armée malgache, terre, air, mer, émaneront du quartier général du CAPSAT. » Le CAPSAT, c'est le corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques, donc l'armée qui s'autonomise par rapport à la présidence. Des soldats du CAPSAT ont également d'ailleurs rejoint les milliers de personnes à nouveau rassemblées dimanche dans les rues de la capitale malgache. Cette fois, c'était pour une cérémonie d'hommage aux vies perdues depuis le début des manifestations anti-gouvernementales le 25 septembre. Les militaires y ont d'ailleurs été accueillis avec enthousiasme. Une affaire donc encore à suivre.
Je fais « What ?» Mais d'où ça sort, quoi ? D'où ça sort ?
Des manifestants qui ont le sens de l'humour, c'est à Portland, aux États-Unis, et dans d'autres villes d'ailleurs, c'est en train d'essaimer ce phénomène. À Portland, donc avec humour, les militants contredisent la description apocalyptique de la ville qui est faite par Donald Trump. Celui-ci a mis en avant une violence et une anarchie liées à la gauche radicale, et il a donc, suite à ses propos, promis d'envoyer la garde nationale dans cette ville de l'Oregon, réputée pour son militantisme. Les manifestants qui protestaient par exemple contre les expulsions musclées de migrants par la police de l'immigration, la fameuse ICE, où d'ailleurs les autorités locales présentes aussi, récusent toute cette vision de mise à sac de la ville. Et c'est par exemple sur la place centrale de Portland qu'un militant qui s'appelle Seth Todd, déguisé en grenouille gesticulante, a fait un petit peu parler de lui. Le but, explique-t-il, est d'offrir un contraste puissant avec le récit d'administration Trump, qui prétend que nous sommes extrêmement violents. Non, nous protestons, mais en plaisantant, confie cet homme de 25 ans, qui est donc dans un costume gonflable de grenouille assez comique, et qui se retrouvait à faire face à des cordons de policiers qui l'ont, notamment mardi dernier, 2 ans après les attaques terroristes, au cours d'une manifestation, il s'est fait gazer par la petite ventilation de son déguisement. C'était une manifestation donc avec une centaine de personnes pour que cesse la guerre à Gaza, le génocide de Gaza. Ce jeune homme a aussi été vu le jeudi 2 octobre en première ligne devant le centre de détention de l'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement, c'est la police fédérale des frontières. Il protestait avec d'autres contre l'expulsion des migrants sans papier de la ville de Portland. C'est ce jour-là que la police lui a injecté du gaz dans le trou et la vidéo est devenue virale et de nombreuses autres grenouilles se sont donc depuis jointes à son cortège. D'ailleurs, à l'époque, il a confié « Ça va, c'est pas si terrible. Hein. Ici, on est entre professionnels du militantisme de gauche, non ? Mais on choisit d'afficher une atmosphère bon enfant. C'est pourquoi les manifestants viennent de plus en plus déguisés ou en chantant, en entendant par exemple des chansons créées par intelligence artificielle, le tout avec comme objectif donc de rendre grotesques ces accusations alarmistes qui sont proférées par Donald Trump. Devant les bureaux de l'ICE, par exemple, on voit des opposants déguisés en bananes ou en licornes pour accentuer donc leur caractère pacifique et ils sont malgré tout souvent dispersés par les gaz lacrymogènes des forces de l'ordre. Un autre exemple de ce qui se passe en ce moment, hier, plusieurs centaines de personnes ont profité d'une manifestation annuelle, hein, la randonnée cycliste mondiale nue, donc des cyclistes naturistes. Ils ont fait une manif à vélo à poil, donc ça s'appelle la World Naked Bike Ride. Pour ce qui est de Donald Trump, voici ce qu'il écrivait. « Le règne de terreur de la gauche radicale à Portland prend fin. Le président Donald Trump mobilise des ressources fédérales pour enrayer l'enfer mené par les Antifa. » C'est un communiqué de la Maison-Blanche hein, du 30 septembre. puisque suite à l'assassinat de Charlie Kirk, Donald Trump avait classé officiellement le mouvement Antifa comme organisation terroriste. C'était il y a 3 semaines. D'ailleurs, en annonçant qu'ils allaient démanteler le réseau en poursuivant l'argent des Antifa. Je ne sais pas trop quelles sont leurs sources d'informations, mais visiblement, ça plane bien. Du coup, aujourd'hui, aux États-Unis, du côté MAGA, donc du côté des Trump, il y a quand même des gens qui ont imprimé, qui se baladent avec des t-shirts et qui ont le slogan où il y a écrit dessus « I'm anti-Antifa ». Voilà, donc ils sont anti-antifascistes, mais visiblement, ils ne comprennent pas le problème de la blague. Trump reprend d'ailleurs à son compte aussi ce type de rhétorique avec des amalgames historiques calamiteux, des contresens, et visiblement, il dit un petit peu tout ce qui lui passe par la tête. En tout cas, si on écoute Donald Trump, aujourd'hui, les villes américaines, surtout les villes démocrates, sont ravagées par la violence, une apocalypse urbaine, hein, apparemment les antifas détruisent carrément des immeubles entiers, ce qui mettrait leurs habitants au supplice et nécessite donc l'intervention de l'armée. La garde nationale a ainsi été déployée à Los Angeles en juin dernier, à Washington au mois d'août. Il est à présent question de Chicago, de Memphis et donc de Portland dans l'Oregon. Et ça accentue encore le clivage, puisque souvent les autorités locales, les gouverneurs, etc., eh bien, se placent contre les avis de Donald Trump et ont même intimé, par exemple, parfois, à l'armée de ne pas suivre ses ordres. Tiens, puisqu'on parle de milices dangereuses, on apprenait dans La Dépêche, jeudi dernier, le 9 octobre, l'arrestation de 9 personnes impliquées dans de violentes agressions contre des opposants et opposantes de l'autoroute A69. On est donc en Occitanie, du côté entre Toulouse et Castres. Ces personnes ont été interpellées à Lyon, Marseille et Albi, mardi 7 octobre, sous les motifs de destruction en bande organisée, violence aggravée et association de malfaiteurs. Alors que les opposants au projet sont accusés, eux, depuis des années, d'être des éco-terroristes ultra-violents, ces arrestations viennent montrer, encore une fois, de quel côté se trouve la violence. On peut citer donc en juin dernier le sabotage d'un système d'irrigation d'un paysan bio, qui lui-même opposé à l'autoroute, affilié à la Confédération paysanne dans le Tarn. Eh bien, son système d'irrigation avait été cassé à coups de hache, sauf qu'il avait mis des caméras de surveillance sur son terrain, et qu'en les regardant, eh bien, on avait pu voir à l'œuvre le fils et le salarié d'un des prestataires de ses travaux. Le 13 août 2024, une attaque fasciste, disons-le, contre la ZAD, qui était à l'époque en place contre la 69, avait eu lieu. 3 hommes étaient arrivés, l'un d'eux avait mis un couteau sous la gorge d'un opposant, tandis que les autres aspergeaient les tentes et les véhicules d'essence avant d'y mettre le feu. Un autre opposant qui avait voulu s'interposer s'était lui aussi d'ailleurs vu asperger d'essence par la petite milice, ce qui donc constitue une tentative de meurtre caractérisée. Et enfin, dans les faits retenus par la justice, le 26 août à Verfeuil, sur une maison qui était située sur le tracé du projet d'autoroute, occupée par les écologistes avec l'aval de la propriétaire, un incendie volontaire avait été déclenché. Autour de cette maison s'était montée la ZAD du Verger, hein, je vous en avais parlé, et donc des hommes cagoulés étaient venus le 1er septembre mettre le feu à une voiture en attaquant les habitants. Là aussi, ils ont aspergé un homme d'essence, envoyé du gaz lacrymogène et des cocktails Molotov. C'est notamment pour cet acte-là de barbouzerie hein, que les 9 hommes ont été interpellés. Alors, le journal La Dépêche, c'est d'après quotidienne régionale, c'est le même propriétaire que Midi Libre d'ailleurs, c'est donc un organe de presse qui est plutôt pour la 69. Il prétend dans l'article que les motivations sont encore floues, mais les faits, eux, parlent d'eux-mêmes. Les individus, d'ailleurs, n'ont pas agi de leur propre chef, puisqu'ils ont été payés. 8 de ces 9 personnes arrêtées ont déclaré avoir reçu 800 euros de rémunération. Un de ces hommes arrêtés, d'ailleurs, n'est autre qu'un ancien gérant de sécurité privée qui travaille pour Atosca, donc ceux qui s'occupent de l'autoroute. On le surnommait Greg le millionnaire dans le milieu. Et son casier judiciaire est déjà bien rempli. D'ailleurs, son contrat avec Atosca avait été rompu par le plus grand des hasards quelques jours à peine avant l'attaque qu'il avait menée de nuit. Puisqu'Atosca, visiblement, comptait quand même couvrir ses arrières et ne pas avoir un salarié pris la main dans le sac. D'ailleurs, Atosca est de son côté bien récompensé hein, pour ce sale boulot, puisqu'on a appris il y a 2 semaines que l'État prévoyait de distribuer 41 millions d'euros d'argent public à l'entreprise en 2026. Le journal Reporter expliquait que l'État s'acquitterait de 50,8% de la somme, la région Occitanie de 26,5%, le département du Tarn presque 14% et la communauté d'agglomération Castres-Mazamet des 6% restants, avec aussi la Comcom du village de Soragou pour 2%. Donc voilà, tout le monde met la main à la poche, le tout pour faire baisser le prix du péage. Une aide donc qui ne servira visiblement en réalité qu'à éponger l'inflation. Et pendant tout ce temps, bah, le bruyant chantier de l'autoroute A69 continue lui d'avancer. Il déborde même sur les horaires de nuit, ce qui entraîne la colère des riverains. Comme l'attestent de nombreuses photos et vidéos qui ont été capturées entre le 11 août et le 1er octobre par des habitants tout le long du tracé de cette future autoroute, ils ont transmis ensuite les photos et vidéos au journal Reporter. On voit les machines arriver des fois presque à 4h du matin et ne repartir qu'aux alentours de 23h, et cela tous les jours. Depuis début août, selon l'avocate qui accompagne ces plaignants, 7 plaintes ont été déposées par des riverains pour les nuisances subies. On est donc dans le cadre hors légalité, puisqu'aucun arrêté administratif n'autorise le concessionnaire à Tosca à faire ce travaux à ces horaires-là. Normalement, ça s'arrête de 7h à 22h. La seule possibilité pour lui de le faire serait d'avoir des dérogations qui mèneraient des préfectures ou des mairies concernées par le chantier. Elles peuvent en effet permettre au concessionnaire de travailler plus tôt le matin ou plus tard le soir, mais aucune de ces dérogations n'a été retrouvée. Silence radio du côté des préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne. Et enfin, après de multiples relances, les journalistes de Reporters sont toujours sans nouvelles d'un éventuel arrêté qui autoriserait l'allongement de ces horaires du chantier. Quant au concessionnaire Atosca, lui n'a fait aucun commentaire non plus sur l'absence de cadre légal lui permettant d'allonger les horaires du chantier. Ce n'est pas la première irrégularité pour Atosca, puisque depuis le début des travaux, la préfecture du Tarn a émis 50 rapports de manquements administratifs et 15 arrêtés de mise en demeure à l'encontre d'Atosca, mais les travaux continuent malgré tout. C'est visiblement une stratégie du passage en force qui est une fois de plus appliquée dans le cadre de ces grands projets que certains qualifient d'inutiles. Il semble donc totalement assumer l'illégalité, peu importe les mises en demeure, amendes ou absence de cadre légal. Et enfin, le concessionnaire pourrait également, comme il a déjà essayé lors des précédentes audiences, eh bien d'utiliser justement l'avancement de ses travaux comme un argument pour convaincre les juges de la Cour administrative d'appel de Toulouse qui statueront sur le fond du dossier et la légalité au nom de l'autoroute. Ça sera à la fin de ce mois de novembre. NGE et Atosca prétextent devoir tenir des délais impossibles, imposés par un État prêt à tous les excès, telle une bête blessée, prête à faire perdurer un monde qui nous envoie dans le mur. Ce sont les mots du communiqué du collectif La Voie est libre qui s'oppose à la construction de cette autoroute. Ce nouvel épisode révèle surtout une amère réalité. Cette A69, censée connecter les hommes, est en train de fracturer un territoire et d'irriter profondément ses habitants.
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'ils foutent en milieu rural aussi ?
Un petit retour sur une info de la semaine dernière, lundi 6 octobre, c'est un communiqué qui a été publié sur les réseaux sociaux. 8 rodis, ou les rodis, ce sont ces personnes qui travaillent dans le spectacle et qui installent, qui déchargent les camions ou qui montent le matériel sur scène. Eh bien, 8 de ces rodis se sont mis en grève, accompagnés par une mobilisation populaire, et ils ont ainsi fait annuler l'événement La Nuit du Bien Commun. C'était à Aix-en-Provence, dans la salle du Sismic. La Nuit du Bien Commun, c'est quoi, rappelle-t-il ? C'est un événement présenté par ses organisateurs comme une soirée caritative au profit d'associations qui viennent en aide aux enfants ou des personnes dans le besoin. Ça, c'est sur le papier. Mais quand on creuse un peu, le vernis s'écaille et on se trouve face au versant culturel de la nébuleuse mise en place par le milliardaire d'extrême droite, Pierre-Édouard Sterrin, avec ses grands projets crypto-fascistes pour le monde entier. Non seulement il rappelle, certaines de ces associations présentes sont ouvertement anti-IVG, anti-immigration, évangélistes ou catholiques intégristes, mais donc ces soirées sont des occasions en or qui sont offertes aux mécènes d'extrême droite pour exercer leur influence et défiscaliser leur fortune. Voilà, et bien donc 8 grévistes déterminés et qui ont bien lu toutes les clauses du droit du travail et quelques mobilisations dehors ont permis donc l'annulation de cette soirée. Et j'ai envie de leur dire, eh ben écoutez, bien joué.
Siamo tutti antifascisti.
Un fasciste de merde. Un fasciste de merde.
Siamo tutti antifascisti.
On termine avec du local. Une pétition circule en ce moment qui s'intitule « Non à un fast-food à La Roque ». Et oui, à un projet local durable et adapté à La Roque. Elle fait état de la rumeur comme quoi un McDonald's pourrait bientôt ouvrir à La Roque, en plein milieu d'une zone pavillonnaire, un petit peu à la rue du Mazet, c'est derrière les lotissements, en face d'Intermarché, vous voyez un petit peu la zone là en arrière. Les signataires de la pétition refusent ce projet, qu'ils estiment inadapté au village médiéval de La Roque, un projet qui va détériorer la qualité de vie, l'environnement et l'équilibre local. Sont listés dans les nuisances possibles, L'accessibilité dans le village, qui est déjà très difficile, hein, avec ce feu rouge que vous connaissez peut-être, qui pénalise ceux qui arrivent de Grange, et on ne peut pas faire de rond-point à cet endroit-là. Ça pourrait être d'ailleurs un des arguments que le maire utiliserait pour refuser le permis de construire, uniquement avec cet aspect. En effet, un McDonald's, visiblement, ça fait venir 1000 voitures de plus par jour qui circuleraient donc dans la Roque. Cela crée embouteillage, bruit, difficulté pour tous les habitants de se déplacer avec un fast-food qui est ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 23h. Des allées et venues dans nos rues, entraînant des nuisances sonores jusqu'à tard, anticipent et craignent donc les signataires de la pétition. Ils mentionnent également les bruits, les troubles nocturnes, les fortes odeurs tous les jours de la semaine, toute l'année. Une détérioration et une pollution du village et de l'Hérault avec les déchets générés par le fast-food, car malheureusement, souvent, les clients des McDonald's ne sont pas les plus à cheval sur, effectivement, le tri sélectif. Il mentionne également la dégradation d'un village embelli, médiéval et authentique, une petite cité de caractère, donc pour eux, un choix contraire aux engagements écologiques de la ville, qui d'ailleurs, paradoxalement, vient d'obtenir 2 grenouilles pour son investissement végétal. Et enfin, en élargissant la problématique, ils craignent une menace pour la santé publique pour toute la région. Car dans les McDonald's et autres concurrents, on mange des produits ultra transformés, avec un encouragement à la malbouffe. Donc pour eux, dans ce projet, aucune prise en compte des enjeux de santé, d'éducation alimentaire ou d'impact environnemental. Dans toute la France, des associations de riverains d'ailleurs se mobilisent contre les fast-foods, principale cause de nuisance pour eux, pour ceux qui vivent à côté. La pétition est donc toujours en ligne sur le site change.org. Il adresse aussi au maire et au conseil municipal qui, pour eux, doivent refuser le projet. Ils souhaitent que le terrain donc, reste commercial, mais sans l'aspect restauration, donc sans fast-food. Voilà une pétition sur change.org anonyme qui est adressée au propriétaire actuel du terrain, qui est également le propriétaire de Monsieur Bricolage, mais aussi à la mairie de la Roque, la communauté des communes et au préfet de l'Hérault. Chers amis, je vous dis bonne journée, bon appétit. Si vous passez à table, on se retrouve jeudi pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.